Nous sommes en compagnie de Donatien Schramm, fondateur à Belleville de l'association Chinois de France, Français de Chine. Alors Donatien Schramm, pourquoi avez-vous fondé cette association ?
Ah, parce que tout jeune, je suis tombé amoureux de la Chine, tout simplement comme beaucoup de gens qui s'intéressent au monde chinois. Et je suis tombé amoureux de la Chine à cause d'un film que j'ai vu des dizaines de fois quand j'étais gamin, qui s'appelle Le cerf-volant du bout du monde. Cette histoire de gamins qui trouvent un cerf-volant à Paris et qui, dans leurs rêves, s'envolent en Chine. Et il leur arrive énormément d'aventures. Et donc voilà, je suis tombé amoureux de la Chine étant petit, mais j'habitais Marseille. Donc c'était pas le lieu privilégié pour s'intéresser à la Chine, même s'il y a une présence chinoise de plus en plus importante à Marseille. Mais à l'époque, c'était surtout de mon enfance. C'était surtout des Vietnamiens. On avait beaucoup de Vietnamiens, d'anciens dans l'armée française, par exemple. Et puis après, je suis monté à Paris. Et à Paris, j'ai eu la chance d'habiter deux quartiers, l'île aux Chalons et Belleville, maintenant, qui sont deux quartiers chinois. Et puis j'ai rencontré à l'île aux Chalons mon épouse d'origine chinoise. Et vous savez bien que l'amour abolit toutes les frontières. Et donc voilà, je suis retombé amoureux de la Chine en tombant amoureux de mon épouse.
Et vous pratiquez le cerf-volant ?
Je ne pratique pas le cerf-volant, non. J'en fabrique avec les enfants, parfois dans les ateliers, mais je ne pratique pas trop le cerf-volant. Je suis pas très doué pour un certain nombre d'arts chinois comme le cerf-volant. Je sais pas ce que je fais de mieux.
En tout cas, Marseille, c'était pas mal parce que c'était aussi le premier port d'entrée des Chinois en France.
Ça a souvent été le premier port d'entrée des Chinois en France, notamment des Chinois, dans les années 20, 30, quand ils venaient en France, ils avaient deux routes possibles. Ces Chinois dont on a peu entendu parler, en fait, hein, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont en France. Ils venaient donc de Shanghai et Shanghai-Marseille, c'était une des deux routes. L'autre route, c'était par le transsibérien en traversant la Russie, puis tous les pays dits de l'Est, mais qui n'étaient pas encore les pays de l'Est, et en arrivant ensuite à Paris par la gare du Nord, et on allait s'installer à l'île aux Chalons, puisqu'en fait, le premier quartier chinois de Paris, c'était l'île aux Chalons. Ça a été longtemps le plus ancien quartier chinois de Paris.
Pour ceux qui ne sont pas parisiens, l'île aux Chalons se situe
près de la gare de Lyon, juste derrière la gare de Lyon. C'est vrai, excusez-moi, je suis parisien, moi, depuis quelques années maintenant, et j'oublie parfois de situer les choses.
Et oui, c'est important, parce que nous sommes écoutés quand même jusqu'en Chine. Alors l'île aux Chalons, c'est pas évident à positionner sur un plan de Paris. Alors avant d'aborder l'histoire de la diaspora chinoise en France et à Paris, il serait peut-être bon de rappeler quand et pourquoi les Chinois ont commencé à aller vivre hors de l'Empire du Milieu.
Les Chinois, depuis très très longtemps, ont commencé à aller vivre ailleurs parce que la Chine a toujours été un pays de famine, malheureusement, un pays où il ne faisait pas toujours bon vivre. Et donc cette diaspora chinoise qu'on estime aujourd'hui à plus de 50 millions dans le monde, encore faudrait-il un jour s'entendre sur ce que veut dire le mot être chinois. Hein, on en reparlera tout à l'heure, mais cette diaspora chinoise, elle est très 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 ancienne. Les premières vagues d'immigration datent de l'époque des Mongols, hein, c'est donc très 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 ancien. Le premier Chinois qui est venu en France, dont on connaît la trace, il s'appelait Rabban Soma, et c'était un envoyé de Kubilai Khan qui est venu rencontrer le roi de France et le roi d'Angleterre, sauf qu'on était en pleine période en France, malheureusement, de la guerre de Cent Ans, et c'était donc pas le moment de venir proposer une croisade commune aux Anglais, aux Français, au pape à Rome, et pour aller attaquer les Arabes, mais c'était la première présence chinoise en France. Vous voyez, donc ces Chinois qui sont partis vers l'étranger, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours eu lieu. La grande arrivée des Chinois en France, dont on a beaucoup parlé dans les années 70, c'est des réfugiés du sud-est asiatique, Chinois qu'on a appelés les Boat People, hein, qui venaient du Vietnam, Cambodge, Laos. Ces familles chinoises qui venaient du Cambodge, Vietnam et Laos étaient parfois installées dans ces pays depuis plusieurs siècles. Donc c'est une histoire très très ancienne. Les premiers lieux où se sont implantés ces Chinois, c'est l'Asie du Sud-Est, bien sûr, puisque ça paraissait normal, hein. Façade maritime du Sud, on est des régions très très pauvres, pas toujours facile d'accès à la mer, donc on a intérêt à s'en éloigner, et ils sont allés vers l'Asie du Sud-Est, donc ce qu'on appelait nous autrefois la Cochinchine, l'Indochine, ce qui a pris après d'autres noms et qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Vietnam, Cambodge, Laos, Myanmar qui s'appelait Birmanie, Thaïlande qui s'est appelé longtemps le Royaume de Siam, etc.
Et tout ça a commencé au XVIe siècle.
En gros, les plus anciens, c'est il y a à peu près 4 siècles, les grandes vagues d'immigration. Mais déjà avant, il y avait eu des vagues d'immigration. Et le Japon a accueilli des Chinois, toujours accueilli des Chinois. Taïwan n'était pas une île chinoise à l'origine. Taïwan était une île avec une population propre qui a accueilli ensuite des Chinois. Vous voyez que c'est une histoire qui est très très ancienne et qui a eu des conséquences, puisqu'aujourd'hui, Taïwan est considéré par les Chinois, par la Chine, comme une province chinoise.
Alors l'immigration, c'est aussi prendre la route. Alors il y a eu la route du jade vers l'Inde. la route de la soie vers l'Europe. Toutes ces routes ont tracé un petit peu le chemin pour les immigrés, aussi bien que pour le commerce.
Les routes sont très anciennes. La route la plus ancienne, c'est la fameuse route de la soie, puisqu'il faut savoir que les Romains déjà s'habillaient avec de la soie qui venait de Chine. Donc si les Romains s'habillaient avec de la soie de Chine, c'est que ces routes existaient depuis très très longtemps. Mais il y a aussi, dans l'autre sens, il y a eu ces routes ont été empruntées aussi dans l'autre sens, puisque il y a par exemple des récits célèbres d'écrivains comme Guillaume de Robruc, bien avant Marco Polo, de gens qui étaient allés en Chine et qui racontent leur voyage vers la Chine ou vers ce qu'on appelait autrefois aller à la Chine. Hein. Voltaire parlait de aller à la Chine. Donc on n'a pas attendu Marco Polo, qui d'ailleurs peut-être n'est jamais allé en Chine, pour connaître toutes ces routes. Route dite donc de la soie, route de la du jade, et puis une autre route aussi qui était une route vers l'Occident, des Chinois vers l'Occident, pour aller chercher le bouddhisme. Souvenez-vous le fameux roman que peut-être vous avez lu un jour qui s'appelle Le voyage vers l'Occident. Et donc en fait c'était la recherche de l'immortalité et l'apparition du bouddhisme en Chine.
Et d'ailleurs Guillaume de Rubruck est quand même flamand. Il y a un village qui s'appelle Rubruck en Flandre et c'est de là qu'est parti ce fameux Guillaume vers l'Empire du Grand Khan. On parle de diaspora chinoise. On pourrait définir le terme de diaspora?
Alors, bon, déjà, diaspora, il n'est pas un terme qui s'applique normalement aux Chinois, puisque le terme diaspora concerne une communauté particulière, mais on va dire diaspora par facilité, c'est vrai. Mais moi, je parle plutôt de diaspora au pluriel chinoise, parce qu'en fait, il n'y a pas une communauté chinoise, et notamment en France, c'est le cas, il n'y a pas une communauté chinoise, mais des communautés très, très différentes les unes des autres, qui ne viennent pas tous du même endroit, qui ne sont pas venus tous pour les mêmes raisons, qui ne sont pas venus au même moment. D'ailleurs, la communauté chinoise la plus importante en France, c'est la communauté Qintian Wenzhou, et c'est Qintian Wenzhou qu'on trouve notamment à Lille. C'est des gens qui ont commencé à venir à la fin du 19e siècle en France et qui continuent encore à venir aujourd'hui en France. Donc, vous voyez, c'est une histoire très très ancienne, plus d'un siècle de cette présence. Et puis il y a d'autres communautés, puisqu'on parle par exemple des Chinois d'Indochine, hein, qu'on trouve à Paris dans le quartier du 13e, le fameux quartier chinois du 13e qu'on appelle souvent Chinatown et qui n'est pas un Chinatown d'ailleurs, ou d'autres communautés aujourd'hui qui arrivent. Aujourd'hui, on parle de venues importantes de Dongpei, de Chinois du nord-est de la Chine, surtout des femmes qui viennent des grandes villes qui ont été touchées par les bouleversements économiques en Chine dans les années 90, hein, les entreprises d'État qui ont fermé et licencié massivement. Et puis, on a eu une immigration intérieure de Chinois de l'intérieur, donc qui allaient vers les façades maritimes chercher du travail, les fameux Mingong. Une partie de ces Mingong ont commencé aussi à venir vers l'Occident. Et aujourd'hui, on a des Chinois qui viennent de provinces de l'intérieur, qui viennent dans nos régions et donc en France aussi. Donc, on va trouver de plus en plus de diversité dans cette communauté chinoise. Et enfin, à Lille, vous êtes très concernés, et surtout sur le campus universitaire, il y a la présence des étudiants chinois qui sont très, très nombreux en France. Je crois qu'ici, c'est près d'un millier d'étudiants chinois à Lille. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a des communautés très, très différentes parce qu'entre un étudiant chinois qui vient d'une province de l'intérieur et un Wenzhou qui n'est peut-être pas allé à l'école ou très peu, qui vient de la campagne profonde, on va avoir deux mondes très, très différents. C'est pour ça que je préfère parler de communauté au pluriel ou de diaspora au pluriel pour les Chinois plutôt que de parler d'une communauté où tout le monde se ressemblerait, serait pareil, aurait les mêmes façons de penser, etc. Et puis, il faut aussi se dire qu'un jour, il faudra définir ce qu'on entend par le terme chinois, parce que qui est chinois entre mes enfants qui sont à moitié chinois, mon épouse qui est née en France mais d'origine chinoise, mes beaux-parents qui sont venus il y a 53 ans exactement en France, il y a des différences, mais est-ce que tous les trois ne sont pas tous les trois groupes ne sont pas des Chinois? Alors, il faut définir un jour ce que veut dire le mot chinois. Moi, j'ai tendance à dire que est chinois celui qui, par ses habitudes, son alimentation, la langue qu'il possède ou qu'il parle ou qu'il utilise régulièrement, par sa façon de penser, a un rapport direct avec le monde et la culture chinoise. Et donc, vous voyez, ça fait quand même une définition assez vaste de qui est chinois. En fait, chez moi, le seul qui ne soit pas chinois, c'est moi.
Ça, on l'avait bien compris. Donc, je rappelle que le terme diaspora en grec signifie dispersion. Il faut quand même bien le préciser. Oh, alors, quand on quitte son pays, on le quitte volontairement. Mais sauf qu'au XIXe siècle, il y a eu une traite des Chinois qui a remplacé la traite des Noirs avec les Anglais. Il y a eu une migration organisée à partir du commerce des coulis, à partir de Macao vers Cuba, le Pérou et le Brésil. Et ça, on en parle moins.
Oui, alors il y a cette traite des Chinois vers les Antilles, notamment vers des pays d'Amérique du Sud, pour travailler dans des conditions terribles, puisque c'était pour travailler dans les champs de canne à sucre, ou travailler pour des travaux, par exemple au Pérou, c'était pour travailler sur le guano. Il y a eu des Japonais aussi qui ont travaillé dans les champs de guano. Alors, le guano, c'est en fait un mélange d'algues et de fientes d'oiseaux, de mouettes, hein, et qu'on utilise dans l'agriculture pour répandre sur les champs comme engrais. Mais il y a aussi d'autres migrations venant de Canton, de la région de Canton, vers ce qu'on appelle les Mascareignes en général, c'est-à-dire toute la région de l'île Maurice, La Réunion, toutes les îles qui sont au sud de l'Afrique, et même Tahiti, une importante communauté chinoise à Tahiti. Et donc on a d'autres migrations comme ça qui ont eu lieu, et qui sont pas des migrations choisies, mais des migrations subies de gens qu'on allait chercher parce qu'on en avait besoin pour travailler dans les champs, comme on avait fait autrefois avec malheureusement les Africains qu'on a installés dans les Antilles notamment, ou dans notre région du sud des États-Unis.
Oui, c'est une vieille histoire. Alors la diaspora chinoise, ou les diasporas chinoises, constituent la sphère la plus grande et la plus prospère dans le monde. Il paraît que ce serait la 4e puissance économique mondiale. Alors finalement, est-ce que ces Chinois hors de Chine ont joué un rôle important dans l'ouverture économique de la Chine ?
Oui, heureusement d'ailleurs qu'ils ont joué un rôle important, parce que une grande partie des entreprises qui sont installées, ouvertes en Chine dans le privé depuis les années 80, sont installées dans les provinces où on trouve une diaspora chinoise importante et répandue dans le monde. Par exemple, la province du Zhejiang, mais aussi la province de Guangdong, la province du Fujian. Donc toutes les provinces maritimes sud-sud-est de la Chine où on va avoir cette présence d'entreprises jusqu'à Shanghai, si vous voulez, hein, de Canton à Shanghai, de Macao à Shanghai, on va avoir cette implantation d'entreprises qui avec donc des capitaux privés qui venaient de l'extérieur de la Chine. Et puis aussi, ça a une influence encore aujourd'hui, parce que moi, j'habite donc un quartier très populaire, Belleville, où il y a une présence chinoise importante. Et on s'aperçoit que les parents des enfants nés en France commencent à réfléchir, à se dire la Chine, c'est l'avenir. Nous, on a quitté la Chine pour offrir un avenir à nos enfants. Et aujourd'hui, la Chine, ça redevient un avenir pour nos enfants. Donc comment nous, on va se positionner, qu'est-ce qu'on va proposer à nos enfants pour qu'ils puissent se servir de leur connaissances, de leur savoir, pour pouvoir travailler avec la Chine demain. Non pas parce qu'ils vont retourner vivre en Chine, mais tout simplement parce que ça peut être aussi un atout formidable pour un pays comme la France, d'avoir une présence chinoise importante, parce que ça, c'est des liens qui vont se créer, une façon d'être, une façon de faire. On ne fait pas des affaires avec la Chine comme on fait des affaires avec d'autres pays d'Occident. Hein. Faut pas croire que c'est aussi simple qu'on le croit. D'ailleurs, il y a énormément d'entreprises françaises qui ont eu du mal à s'implanter en Chine et qui le savent aujourd'hui. Il y a des règles à respecter, il y a des façons de faire, il y a des codes à comprendre, des façons d'être à comprendre aussi. Et ça, c'est un atout pour des jeunes Chinois nés en France qui maîtrisent la langue, qui maîtrisent ces codes, qui maîtrisent cette compréhension et qui vont pouvoir, dans les années à venir, nous aider aussi à mieux travailler avec la Chine. Il ne s'agit pas de se comporter comme des colonialistes comme on s'est comporté jusqu'à maintenant, mais bien d'offrir à notre pays et à la Chine un véritable choix et une véritable coopération.
Les Chinois qui sont en France aujourd'hui, est-ce qu'ils ont en tête que leurs ancêtres sont venus en 1916 participer à l'effort de guerre ?
Alors, oui et non. Oui et non, parce que souvent, malheureusement, la grande majorité des Chinois qui vivent en France ne connaît pas sa propre histoire, ne connaît pas l'histoire de la Chine non plus. Moi, j'étais frappé il y a quelques jours en cours de français, puisque je donne des cours de français à Belleville, à des Chinois qui ne maîtrisent pas du tout notre langue. On parlait de date de naissance, et une de mes élèves m'a répondu qu'elle était née le 10 octobre. Et je lui ai dit, tiens, c'est 10 octobre, c'est pas n'importe quelle date en Chine. Et elle m'a dit, ah bon, c'est quoi en Chine le 10 octobre ? Je lui ai dit, c'est quand même, ça a été pendant longtemps la fête nationale chinoise. Et ils ne le savaient pas. Donc les Chinois qui viennent de Chine ne connaissent pas leur propre histoire. Et donc l'histoire de l'immigration, vous doutez que malheureusement, beaucoup ne la connaissent pas et leurs enfants non plus. Donc il y a un vrai travail à faire. En même temps, il y a quand même des gens cultivés, il y a des gens qui savent, il y a des associations qui fonctionnent dans les quartiers chinois de nos villes. Et régulièrement, par exemple, il y a des voyages qui sont organisés pour emmener des Chinois vivant en France ou des touristes chinois vers les tombes chinoises de la région de Saint-Valery-en-Caux ou dans la région Nord-Pas-de-Calais, parce qu'il y en a pas mal dans la région de Nord-Pas-de-Calais, des villes comme Rumingham, des villes comme Blériot-Plage, des endroits comme ça. Mmh. Il y a encore des tombes chinoises qui existent, hein, datant de la guerre 14-18.
Oui, il y a aussi le cimetière de Aix-Noulette, je pense.
Oui, oui. Donc Noulette, c'est près de, c'est en fait tout près, tout près de Saint-Valery-en-Caux. La ville s'appelle j'ai oublié, ça y est. C'est tout près du Crotoy. Ça y est, oui. Ça me reviendra tout à l'heure, mais voilà.
Enfin, on est dans le Grand Nord, au-dessus de Paris. Oui. Est-ce qu'il y a des routes clandestines d'émigration chinoise aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Les Chinois qui viennent aujourd'hui ont parfois des visas, pas toujours. Il faut savoir quand même que d'après les chiffres de l'OCDE, 80% des immigrés, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, qui viennent en France, arrivent avec un visa. Mais il faut savoir qu'un visa, c'est un visa provisoire en général. Un visa qui dure 2, 3 mois, 4 mois maximum, et puis ensuite le visa prend fin, et donc on se retrouve ce qu'on appelle être sans papier. Ce qui est une appellation un peu aberrante, parce qu'on a des papiers, on a un passeport, donc on n'est pas sans papier. Mais on n'a pas de raison légale de vivre en France, on n'a pas de carte de séjour ou carte d'identité. Voilà. Ensuite, il y a aussi donc, toutes les routes clandestines qui permettent de venir en France. Ces routes clandestines, en France ou en Europe d'ailleurs, hein, parce que là aussi, nous, on a une vision un peu ethnocentriste des choses. On dit, ah, ils viennent en France. Non, ils viennent en Europe. Mm-hmm. Et si demain, le travail est en Belgique, en Allemagne, en Italie. Demain, on ira très facilement en Allemagne, en Belgique, en Italie, sachant que ces Chinois qui viennent en France ne maîtrisent pas la langue française. Donc, ils ne maîtrisent pas plus l'italien ou l'allemand. Et quand ils viennent, leur premier souci, ce n'est pas d'apprendre la langue du pays dans lequel ils se trouvent. Leur premier souci, c'est de trouver du travail, c'est d'avoir le plus vite possible des papiers et donc, encore une fois, d'offrir un avenir à leurs enfants. C'est ça le plus important. Donc, des routes clandestines existent. Oui, il y a des routes clandestines. Ces routes clandestines peuvent être variées, ça dépend des moments. Par moments, c'est un passage par l'Afrique. Par moment, c'est un passé. Il y a eu une longue période où il y avait un passage par l'ex-Yougoslavie qui était en guerre, qui était donc un endroit idyllique. Il y a toute une période où on passait par la Turquie, puis la Grèce, et ensuite on remontait donc via l'Italie vers l'Europe, vers nos pays et une autre partie de l'Europe. Et puis, bien sûr, les anciens pays de l'Est, encore une fois, qui ont toujours, depuis les années 90, été des lieux privilégiés pour passer, parce que ce sont des vrais passoires maintenant.
Et notamment les Balkans, l'Albanie, le Monténégro, voilà, la Serbie.
Les routes sont très, très variées. Variable suivant les périodes. Il y a une route qui va être privilégiée à un moment donné pendant 2-3 mois et puis après c'est une autre. Donc moi quand je demande aux gens que je connais à Paris quelle route ils ont emprunté, tout dépend de la période à laquelle ils sont venus. Ouais.
Alors on a parlé des sans-papiers tout à l'heure, j'ai lu un chiffre de statistique, en 2004 il y en aurait eu plus de 60 000 en France, mais bon après...
On est très loin des chiffres. Vous savez, officiellement en France il y a 40 000 Chinois. Officiellement.
Ah oui, bon.
Le dernier recensement exact qu'on a fait, c'était 99, et c'est donné à peu près les mêmes chiffres. On a très peu de Chinois en France officiellement. Or, on sait très bien que la fourchette qu'on peut établir de la présence chinoise en France, c'est entre 700 et 800 000. Donc on est très loin, vous voyez, de la réalité quand on donne des chiffres officiels. Mais pourquoi on est très loin de la réalité ? Parce que, encore une fois, il faut définir ce que veut dire être Chinois. Quand on a eu une arrivée massive de Chinois d'Indochine, Vietnam, Cambodge, Laos, qui avaient des passeports de ces pays... et qui n'ont jamais été recensés comme Chinois, puisque quand arrivés en France, ils ont eu tout de suite les papiers français, on a eu une arrivée d'à peu près 120 à 150 000 personnes qui n'ont jamais été considérées comme Chinois, mais eux-mêmes se considèrent comme Chinois. Les sans-papiers, par essence, ne se font pas recenser, ne cherchent pas à se faire recenser. Tous les gens qui ont acquis au fil des ans la nationalité française ne sont plus considérés comme Chinois. Mon épouse née en France n'est pas chinoise. Mes beaux-parents qui ont la nationalité française ne sont pas chinois officiellement.
Et pourtant, ils le sont.
Et pourtant, mes beaux-parents parlent très très bien leur dialecte, très mal le mandarin, mais très très bien leur dialecte chinois qui s'appelle le Qintianhua.
Alors, d'où viennent les Chinois de Belleville majoritairement ?
Alors, à Belleville, la grosse majorité de la communauté chinoise, c'est ce qu'on appelle les Qintian Wenzhou. Qintian et Wenzhou, c'est une petite entité, on va dire une grosse agglomération qui se trouve 400 km en dessous de Shanghai. Autrefois, administrativement, Qintian et Wenzhou étaient rattachés. Aujourd'hui, Qintian est rattaché à une ville un peu plus au nord qui s'appelle Lishui. Et Wenzhou compte aujourd'hui 9 millions d'habitants répartis dans 10 cantons. Le principal étant la ville de Wenzhou même, un port, et 9 cantons qui sont la campagne qui s'appelle, si ça vous intéresse, Zhuiya, Nuhai, Wenchang, Yuechin, Yongjia, et qui sont très très connus par les Chinois en général, parce que l'histoire des Wenzhou en France, tout le monde la connaît en Chine.
Hein. Oui, alors ce qui est paradoxal, c'est que c'est une des villes les plus riches de Chine, dit-on, et c'est aussi la ville qui fournit le plus d'immigration. Alors moi, je me suis demandé si ce n'était pas parce qu'il y avait une population chrétienne à 21%.
Alors, il y a plusieurs facteurs. Le facteur de la population chrétienne peut jouer, c'est vrai, puisqu'on a, par exemple, à Belleville, énormément de temples évangélistes avec une présence visible et importante et qu'une partie de cette immigration chinoise est liée à l'évangélisme. Mais il y a plein d'autres raisons. On oublie une chose très importante, c'est que la richesse n'est pas réparti de façon idéale. Et que même si Wenzhou est devenue une ville très riche, c'est la ville. la campagne environnante, elle, reste pauvre. C'est-à-dire que sur 9 millions d'habitants de la région de Wenzhou, il y en a encore 7 à 8 millions qui sont relativement pauvres. Et donc, il n'y a aucune raison que ces gens ne se disent pas, puisque ma famille, une partie de ma famille est partie en France, est venue en Europe gagner de l'argent, pourquoi moi, je ne ferai pas la même chose? Et puis aussi, les idées de réussite sont toujours véhiculées par ceux qui ont vraiment bien réussi. Quand on parle de la réussite des Wenzhou en France, on oublie qu'une partie des Wenzhou vit encore dans la très grande précarité en France. On oublie qu'une partie, même en ayant les papiers, n'a pas une vie très très heureuse, qu'elle est venue surtout pour offrir un avenir aux enfants et non pas pour eux-mêmes. Et donc, ça suscite toujours de nouvelles vocations. Quand on fait les mariages chinois à Belleville, même si on est très pauvre, on va s'endetter. On va louer une grosse limousine, on va inviter beaucoup de gens dans un grand restaurant, on va filmer tout ça, on va prendre des photos et on va envoyer ça en Chine. Donc on va laisser penser qu'on est riche. Et bien sûr, quand on laisse penser qu'on est riche, on suscite toujours de nouvelles vocations. Et puis le décalage est énorme. Suffit d'envoyer quelques dizaines d'euros, centaines d'euros de temps en temps à la famille en Chine et on laisse supposer qu'on est riche ici. Mais c'est, le décalage peut être aussi dans l'autre sens. J'ai une amie chinoise de Belleville qui a reçu sa sœur il y a quelques semaines et elle me racontait en pleurant, ce qui est quand même assez rare chez les Chinois, que sa sœur en Chine à Wenzhou, qui a plusieurs concessions automobiles aujourd'hui, gagne beaucoup mieux sa vie que elle qui est venue en France et qui a fait d'énormes sacrifices pour offrir un avenir à ses enfants. Et voyez, le décalage, il peut être aussi dans l'autre sens, sauf que la France, l'Occident, nos pays restent un peu l'idée de l'Eldorado, quoi, pour tous ces gens.
Et pays de liberté aussi.
C'est vrai.
Alors, quels sont les quartiers de prédilection de la diaspora chinoise parisienne en dehors de Belleville?
Alors, en fait, c'est particulier à Paris et à la France. On n'a pas un quartier chinois, mais plusieurs quartiers chinois. Donc, je parlais de l'îlot Chalon, qui malheureusement n'est plus un quartier chinois, parce que dans les années 70, on a agrandi la gare de Lyon et on a démoli une grande partie de l'îlot Chalon. Donc, ce n'est plus un quartier chinois. Mais il reste aujourd'hui trois gros quartiers chinois à Paris. Le 13e, avec une communauté chinoise qui est essentiellement des Chinois d'Indochine, mais pas seulement aujourd'hui. Il y a des Chinois qui viennent de Chine et qui s'installent dans le 13e. Sauf que les Chinois du 13e sont allés habiter ailleurs après. Très vite, dans les années 80, ils sont allés s'installer en banlieue, et notamment du côté de Marne-la-Vallée, Lognes-Torcy. Et puis, il y a Arts et Métiers, qui est aujourd'hui le plus ancien quartier chinois de Paris. C'est juste derrière Beaubourg, Arts et Métiers. C'est un quartier essentiellement de grossistes. Donc, ce n'est pas toujours très visible que c'est un quartier chinois. Parce que quand on descend, par exemple, la rue du Temple, on voit beaucoup de magasins de maroquinerie, de confection et de bijoux de fantaisie. Mais si on n'y fait pas attention, on ne s'aperçoit pas que ce sont des magasins tenus par des Chinois. Un exemple très simple, si vous achetez un sac de la marque Pactage ou un sac de la marque Lancaster, vous achetez chinois de Paris sans le savoir. Voilà.
Non, effectivement, on ne sait pas toujours.
Alors, et puis il y a Belleville.
Voilà.
Belleville, le plus chinois des quartiers chinois.
Alors pour en revenir à Belleville, comment vous expliquez la violence qui s'est ces derniers temps invitée dans ce quartier?
Alors c'est pas nouveau. Malheureusement, c'est pas nouveau. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite à Belleville et cette violence, elle existe depuis très très longtemps. Sauf que ce qui est nouveau, c'est que les Chinois se sont mobilisés ces derniers temps pour essayer de trouver des solutions et surtout de montrer leur ras-le-bol. Donc il y a eu deux grosses manifestations, le 20 juin 2010 et le 19 juin 2011. Je connais les dates par cœur parce que j'étais aux deux manifestations.
Vous
et que c'est assez
rang.
Rare pour qu'on s'en souvienne. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on se fait attaquer, on se fait agresser, on ne peut plus accepter ça, il faut que ça change. Mais cette idée, en gros, que les Chinois se feraient agresser depuis quelque temps seulement, c'est faux. Ça fait très très longtemps, malheureusement, que ça existe. Le déclencheur, si vous voulez, c'est que c'est arrivé à un tel point que beaucoup de Chinois habitant en banlieue ou d'autres quartiers de Paris ne viennent plus ou ne venaient plus à un moment donné à Belleville faire leurs courses et les commerçants chinois en ont subi les conséquences avec une perte de chiffre d'affaires suffisamment importante pour que ça les alerte et qu'ils fassent une pétition et qu'ils se mobilisent. Donc ils ont créé une association de commerçants chinois pour essayer un peu de régler un certain nombre de ces problèmes. Pourquoi les Chinois se font agresser à Belleville? Tout simplement parce que les délinquants savent ce qu'ils font en général. Et si vous voulez, il y a un double phénomène un peu paradoxal, c'est que les Chinois à Belleville, certains sont commerçants, donc les commerçants, c'est bien connu, sont riches et on veut avoir de l'argent sur eux. Et on sait que les Chinois ont, on va dire, une difficulté à utiliser des moyens de paiement autres que le liquide. La carte bleue, le chèque, chez les Chinois, c'est quelque chose de relativement rare.
Donc on sait
même en France, malheureusement, il faut être déjà dans la deuxième, trois jeunes générations pour voir ce genre d'utilisation. Donc on va avoir des commerçants qui vont souvent se promener avec beaucoup de liquide et ils ne sont pas toujours très prudents. Et puis il y a un autre phénomène, ce sont les sans-papiers. Une grande partie des Chinois qui vivent à Belleville est sans-papiers. On sait qu'un sans-papier va travailler tard le soir ou commencer tôt le matin, qui va habiter souvent dans les petites rues et pas dans la grande rue de Belleville, et donc qu'il est plus sujet à des agressions que d'autres, d'autant plus qu'il va avoir du liquide sur lui, puisqu'il est comme tous les Chinois, il aime avoir du liquide, et qu'il n'ira pas porter plainte puisqu'il est sans papier.
Hein, c'est une cible idéale.
C'est une victime idéale. Et puis, il y a une autre partie des Chinois, ce sont les prostituées chinoises, puisqu'il y a une communauté donc chinoise de Nord qui est arrivée depuis quelques années, et une partie d'entre elles se prostituent. Donc, ces femmes chinoises qui sont dans la rue, sans papier, tard le soir, avec du liquide sur elles, elles sont des victimes idéales. Donc, bien sûr, toutes ces femmes se font régulièrement agresser aussi.
Eh bien, Donatien Schramm, merci. Tout d'abord, pour aller visiter Belleville-la-Chinoise, on peut s'adresser à vous, puisque vous guidez régulièrement des balades dans le quartier. Donc, Chinois de France, Français de Chine, sur Internet, ça se trouve très très facilement. Et pour en savoir un peu plus sur le sujet, et si vous habitez Lille, rendez-vous ce soir à 19h, donc avec Donatien Schramm à Voyageurs du Monde, au 147 boulevard de la Liberté. Il y donnera une conférence organisée par les Amitiés franco-chinoises de Lille sur la présence chinoise en France.